Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, et c'est Clap, Clap l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceaux, avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafon. Cette semaine, 9 nouveautés, plus 2 dessins animés. Alors, il y a Amant, Memoria, Les Baudins en Thaïlande, Les Magnétiques, En effet pour s'entendre, Orange Sanguine, Olga, Affamé, Haut et Fort. Et les deux dessins animés, attention, c'est des dessins animés composé de courts-métrages, ça dure 45 minutes et on n'en parlera probablement pas parce qu'il y a juste une ou deux séances dans la semaine. C'est le Quatuor à cornes là-haut sur la montagne et le Noël du petit lièvre brun. Mais bon, on verra.
Ouais, c'est pour les petits.
Ah hein. Oui, c'est pour les tout petits. Voilà. Oui. Bien, pour ce qui est de la programmation musicale, on a été pioché un petit peu partout, mais surtout dans les magnétiques, mais pas que. Les magnétiques, eh bien, dans les magnétiques, on entend ce premier titre, Teenage Kicks, The Understones, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Eh bien, c'est tout de suite. Undertones, Teenage Kicks. Thunderstones, Teenage Kicks, un titre que l'on entend dans Les Magnétiques. Les Magnétiques, on en parle dans un petit quart d'heure. On commence notre semaine cinématographique avec Amant, un film de Nicole Garcia, actrice, réalisatrice, scénariste, née en 1946. On la connaît comme actrice, récemment on l'a vu dans L'Origine du Monde, où elle jouait une psychothérapeute bien allumée. Mais en tant que réalisatrice, elle a commencé dès les années 90 par proposer des films. En 90, Un week-end sur deux avec Nathalie Baye. 94, Le Fils préféré avec Bernard Giraudot et Gérard Lanvin. 98, Place Vendôme avec Catherine Deneuve et Jacques Dutronc. 2002, L'Adversaire avec Daniel Auteuil et François Berléand. 2005, Selon Charlie avec Jean-Pierre Bacri et Vincent Lindon. 2010, Un balcon sur la mer avec Jean Dujardin, Marie-Josée Croze. En 2014, Un beau dimanche avec Louise Bourgoin et Pierre Rochefort. Et 2016, Mal de pierre avec Louis Garrel et Marion Cotillard. Voilà, donc le film Amant est proposé par le Pathé Quinconce et par le Méga CGR. Durée 1h42, Lisa et Simon s'aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent la vie urbaine nocturne des gens de leur âge. À la suite d'une soirée qui tourne mal et dont l'issue n'est autre que la prison pour Simon, il décide, c'est Simon, de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. 3 ans plus tard, dans l'océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau. Erinov dans Le Figaro, la réalisatrice redonne du nerf à l'éternel triangle amoureux dans ce film parfaitement maîtrisé. Ses acteurs Stacy Martin, je pense qu'on dit Stacy Martin parce qu'elle est française, on n'a pas de raison d'appeler Stacy Martin, Benoît Magimel et Pierre Ninet la servent avec brio. L'Obs, François Forestier, amant, au fond, est la version moderne du trio d'amants tragiques, trio dont on pensait avoir épuisé toutes les ressources. Nicole Garcia lui donne une nouvelle vie avec une électricité palpable. Cinéma survolté, oui, comme l'amour. Yves Jéglet dans Le Parisien, boulevard du crime, mais la passion, l'infidélité, l'impureté de la vie qui n'empêche pas la pureté des sentiments ont rarement été filmés avec une telle acuité. Gilles Kerdreux dans Ouest France parle d'un film classique mais émouvant. Isabelle Magnier dans Télé 7 jours, porté par une mise en scène stylée et des acteurs magnétiques, le film envoûte de bout en bout. La rédaction de Télérama, Stacy Martin, a tout d'une proie noyée, mélancolique, mais semble aussi détachée, protégée par une carapace. Benoît Magimel impressionne, tout en pesanteur oppressante. Pierre Ninet est fiévreux, tragique à souhait. Leur partition cisèle à merveille ce diamant noir. Olivier de Bruyne en Marianne, malgré la sensualité et l'inspiration de la mise en scène, amant, hélas, souffre parfois de ses incohérences scénaristiques. Baptiste Thion dans Le Journal du Dimanche, Nicole Garcia suggère, sans développer, se contentant d'admirer son beau trio se débattre avec ses culpabilités et ses tourments sentimentaux. Bruno de Ruisseau dans Les Irrecuptibles, malgré la puissance sensuelle de ses deux interprètes principaux, ce thriller psychologique est plombé par un cynisme sentimental navrant et de surface, rehaussé par une photographie de morgue. Oui, voilà, Amant, 1h42, proposé par le méga CGR et le Pâté Quinconce. C'est un thriller autour du thème du triangle amoureux. Alors dit comme ça, ça n'est pas forcément le gage d'un film très original, mais c'est quand même le cas, c'est pas si original. L'intérêt du film réside surtout dans la restitution de l'atmosphère dans laquelle se déroule l'intrigue et l'interprétation donc des trois acteurs principaux dans des rôles chacun comportant une grosse part d'ambiguïté. Donc c'est l'histoire de Lisa et Simon, ils se connaissent depuis l'enfance, l'adolescence, disons le collège, quoi. Ils forment un couple très amoureux. Alors, elle est étudiante en école hôtelière. Lui, eh bien, il deal de la coke pour se faire de l'argent et puis pour leur offrir aussi une belle vie. La mort d'un de ses clients va le forcer à quitter brutalement le pays sans amener Lisa avec lui. Allez, 3 ans plus tard, eh bien, alors qu'elle s'est mariée avec un riche homme d'affaires, Lisa retrouve Simon par hasard sur une plage d'un bel hôtel de l'île Maurice et là, soudain, leur histoire redémarre aussitôt comme auparavant. Sauf que Lisa, bien vous l'avez compris, elle a un mari. Donc c'est un film tendu constitué en 3 chapitres avec ellipse entre chacun de ces chapitres et chaque chapitre correspond à un lieu différent. Premier chapitre, Paris. Deuxième, l'océan Indien, l'île Maurice exactement. Et troisième, Genève. Tout repose sur les rapports entre les personnages, leur personnalité, leur relation à l'argent, leurs sentiments réciproques, mais aussi les rapports sociaux. Une mise en scène sobre, c'est très construit avec une image très stylée. C'est un film noir, hein, classique, où l'on ne s'ennuie pas, même s'il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein, si ce n'est donc l'analyse des relations psychologiques entre ces 3 protagonistes principaux. Les 3 interprètes font preuve d'intensité dans leur jeu. C'est l'atout numéro 1 hein, de ce film. Pierre Ninet, donc, Benoît Magimel et Stacy Martin. Ils sont parfaits dans ce jeu ambigu, dangereux, romantique d'une certaine manière, et dont la tension va crescendo. Moi, c'est un film que j'ai assez aimé, c'est pas indispensable, mais ça sera pour moi, c'est peut-être probablement le film de la semaine. Voilà, ça s'appelle Amant. C'est au Méga CGR, c'est également au Pâté Quinconce. Mémoria. Alors, Mémoria, là, j'aurais dû faire lire ça à Pierre, je me serais bien débarrassé parce que l'auteur s'appelle, alors j'espère que je n'ai pas écorché son nom, Apichatpong Verazetakul.
Apichatpong
Verazetakul. Il est réalisateur, scénariste, producteur thaïlandais, né en 70. Il a commencé par des courts-métrages et puis ensuite des longs à partir de 2000. Mysterious Object Noon, 2002 Blissfully Yours, 2004 Tropical Malady, 2007 Syndrome and Century, 2010 Onk Bonmi. C'est le film qui a obtenu la Palme d'Or et moi c'est le film qui m'a dégoûté à jamais de Apichatpong Verazetakul parce que je suis allé le voir et je me suis ennuyé du début à la fin, donc c'est pas la peine de continuer comme ça. Sinon depuis il a fait en 2012 Mekong Hotel, 2015 Cemetery of Splendor et puis des segments d'œuvres collectives. Voilà, donc le film s'appelle Memoria, il est proposé au cinéaste avec une ou deux séances par jour, 2h16. Au lever du jour, j'ai été surpris par un grand bang et n'ai pas retrouvé le sommeil. À Bogota, à travers les montagnes, dans le tunnel, près de la rivière, un bang. Voilà, ça c'est l'actrice principale Tilda Swinton qui parle. Et donc maintenant, on va vous proposer la revue de presse en vous disant à chaque fois le réalisateur plutôt que son nom parce que c'est un vrai supplice. Le Monde, Clarisse Favre, le 9e long métrage du réalisateur réunit l'expérimental et le film de genre, un chef-d'œuvre. Paris Match, Yannick Veuly, il faut ouvrir ses chakras, accepter l'incroyable, rêver éveillé, l'une des meilleures définitions que l'on puisse donner au cinéma du maître Thaï. Oui, Thaï, parce qu'il est thaïlandais. Renan Crowe, cinématiseur radical et transcendantal, une épopée physique et sonore qui amène loin, très loin. Françoise Delbecq dans Elle, tournée en plan fixe sublime, ce film ne se regarde pas, il se vit. Stéphane Dreyfus-Lacroix, expérience sensorielle, saluée d'un prix du jury au dernier festival de Cannes, mémorial et le fruit d'une spiritualité animiste qui voit en chaque élément du monde un esprit vivant, une âme, que le réalisateur essaie et parvient souvent à faire apparaître à l'écran. Nicolas Chalère dans L'Obs, ce voyage hypnotique exige le lâcher prise et laisse le spectateur dans un état second, ensorcelé ou mort d'ennui. Alexis Campion, Le Journal du Dimanche, un geste fort, audacieux, qui déroute autant qu'il épate par sa maîtrise formelle et sa profondeur, à condition d'en accepter la lenteur et les silences. Le Parisien, bien sûr, c'est comme certaines pièces radicales de la musique dodécaphonique ou de l'art minimal. Il y a des amateurs, pas nous, c'est radical. Gilles Kerbreu, West France, comme d'habitude, le réalisateur propose une expérience sensorielle, un songe, une recherche cinématographique qu'on peut trouver ici particulièrement ennuyeuse, obscure et soporifique. Je savais que ça ne plairait pas, donc je ne suis pas allé le voir.
Moi non plus.
Voilà, donc pour les fans de cinéma, disons quasi-expérimental, Memoria, d'Happy Chatpong, Vera Zetacool, au cinéaste avec une ou deux séances par jour. Voilà. Les Baudins en Thaïlande. Les Baudins en Thaïlande, le film proposé au Pathé Quinconce, au Méga CGR et au Colisée. Une durée de 1h38, il est réalisé par Frédéric Forestier. Frédéric Forestier, c'est ce qu'on appelle un bon faiseur. Réalisateur scénariste, né en 65. Lui aussi, il a commencé par les courts-métrages. Et puis 97, premier long-métrage. État d'urgence avec Dolph Lundgren. Oui, ben voilà. 2002, Le Boulet avec Benoît Poulvord et Gérard Lanvin. Il avait co-réalisé le film avec Alain Berberian. 2004, Les Parrains avec Gérard Lanvin et Gérard Darmon. 2008, Astérix aux Jeux Olympiques avec Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, Alain Delon. C'était co-réalisé là aussi avec Thomas Langman cette fois-ci. 2012, Star 80, co-réalisé avec Thomas Langman. Star 80, c'était avec Richard Anconina et Patrick Timsit. Et 2017, Mon Poussin avec Isabelle Nanty, Pierre-François Martin Laval et Thomas Soliveres. Et puis Frédéric Forestier a son actif également des téléfilms. Les Baudins en Thaïlande, 1h38, je le répète, au Pathé Quinconce, au Omega CGR, au Colisée. Maria Baudin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve. Son grand nigo de fils, Christian, 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l'avis du psychiatre qui conseille le dépaysement, la mère Baudin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils en Thaïlande. Quand la mère et le fils Baudin s'envolent pour la première fois à plus de 10 000 km de leur terroir natal, le choc est énorme. Hôtel club, touristes, plage de sable blanc et autres massages exotiques. Ils n'ont clairement pas le mode d'emploi. Pas simple de dépayser des paysans. Voilà, donc les Baudins s'embarquent alors dans un road movie rocambolesque à travers tout le pays, avec pour seul bagage leur audace, leur cœur et le bon sens paysan. Eh bien, la revue de presse, elle est très simple, il n'y en a pas, parce que la critique ne s'est pas déplacée pour le film, montrant d'ailleurs à cet égard un certain mépris pour le film. Ils ont bien tort, parce que c'est le film qui va certainement faire le plus d'entrées cette semaine. En tous les cas, mercredi, c'est celui qui, sur la France, a fait le plus d'entrées. Pas sur Paris, d'ailleurs. Sur Paris, c'est Amant, mais sur la France, c'est Les Baudins en Thaïlande. Alors, je l'ai vu, non pas par un plaisir absolu à aller voir Les Baudins, mais c'est parce qu'il y avait des avant-premières, et donc, bon, après tout, pourquoi pas.
Avec Les Baudins, non ?
Moi, je ne suis pas allé voir les avant-premières avec Les Baudins, parce qu'ils sont venus au Mans.
Oui, c'est vrai. Oui.
Ils ont eu un gros succès au Méga CGR. Mais je l'ai vu en avant-première, parce qu'il y en avait dimanche des avant-premières. Alors, ayant vu plusieurs captations des spectacles des Baudins, c'est en guerre sensible à leur humour. L'humour c'est très simple. Hein. Maria, c'est la mère, elle a 87 ans, elle passe son temps à engueuler son grand dadé de fils. en usant et abusant de la métaphore égrillarde. Alors pour moi, 10 minutes ça va, au-delà c'est quand même toujours pareil. Alors donc, n'étant pas client de leur humour, je craignais beaucoup cette nouvelle adaptation de leurs aventures au cinéma, parce que c'est la troisième fois qu'il y a des aventures de Bonnes au cinéma. Eh bien, ça aurait pu être pire, oui. Alors, non que le film renouvelle les personnages et leurs caractéristiques, mais bon, c'est un humour bon enfant. Hein, donc, on assiste à ses aventures en Thaïlande sans trop souffrir. À l'histoire, donc, vous l'avez compris, Christian souffre de dépression et il est conseillé à sa mère par le médecin de le dépayser. Et donc, pour le dépayser, on l'envoie en Thaïlande avec, forcément, le choc des cultures et tout ce que cela peut comporter comme quiproquo. Alors, ça casse pas trois pattes à un canard. L'office du tourisme thaïlandais ne peut que se réjouir. On a droit à tout le folklore local et à de belles images de sites touristiques. L'histoire ne fait preuve d'aucune originalité dans son déroulement. Les méchants seront punis, les gentils les puniront. Les gags ne sont pas subtils, mais on évite quand même la trop grosse vulgarité. Alors, tel quel, on a un film dépaysant. Et oui, bon, dépaysant, comme Christian devait se dépayser, ben, le spectateur est dépaysé, qui a bénéficié d'un budget conséquent. Alors, ça se voit à l'image et même à la mise en scène. Forestier, je répète, c'est un bon faiseur. Les films précédents des Baudelaire, c'était quand même plutôt très, très artisanal. Artisanaux, plus exactement. Donc, c'est un film gentillé, avec son lot d'aventures, qui plaira beaucoup, à coup sûr, aux nombreux fans du duo à succès, qui retrouveront avec plaisir leur personnage favori. Amateurs du bourre subtil, s'abstenir quand même, hein, franchement. Voilà. Donc, les Baudelaire, il faut savoir que les Baudelaire, c'est le spectacle vivant qui fait le plus d'entrées en France.
Oui, est-ce qu'il y a des belles images de Thaïlande quand même ?
Oui, exactement, il y a de belles images de Thaïlande. C'est pour ça que je t'ai dit, l'Office du tourisme va être content.
Voilà. Ah.
Bien. Allez, dans Les Magnétiques, il y a un titre que Pierre et moi, qui sommes des vieux, hein, évidemment, apprécions particulièrement, qui est un contre-pied total au reste de la bande originale du film, puisque le reste de la bande originale, c'est du film, c'est de la new wave, oui. c'est du rock, etc. Et bien là, c'est Claude-Michel Schönberg, Le Premier Pas, une chanson qu'on entend même plus sur Radio Nostalgie. C'est terrible, ça, quand même, parce que c'est un magnifique slow.
Du début des années 80.
Ah ouais, voilà, donc Le Premier Pas, sur Radio Alpa, et certainement la première fois.
Le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Je sais, cela ne se fait pas. Pourtant, j'aimerais que ce soit elle qui vienne à moi. Car voyez-vous, je n'ose pas rechercher la manière de la voir, de lui plaire, l'approcher, lui parler et ne pas la brusquer, lui dire des mots. Si elle aimera ou refusera ce premier pas, le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. On peut s'attendre longtemps comme ça. On peut rester des années à se contempler et vivre chacun de son côté. Je la rencontrerai au bas de l'escalier, puis comme tous les jours, elle me dira bonjour, seulement cette fois, elle me prendra le bras, me conduira dans sa maison où nous ferons le premier pas d'amour.
son lit jour après jour. Elle me dévoilera son corps, me donnera tous les remords de n'avoir pas dit plus tôt le premier mot. Le premier mot, j'aimerais qu'elle dise le premier mot. La nuit, j'en rêve, et c'est idiot. Si elle voulait seulement me faire signe tout bas, alors je ferai, je le crois, le premier pas.
Le premier pas, Claude Michel Schoenberg, ça date de 1974, ça a contribué à l'augmentation de la natalité en 1975.
Ah, je me suis planté alors.
Oui, oui, c'est un slow
magnifique. Je croyais que c'était 80, oui.
Je m'en souviens très très bien, moi, de ce slow.
Ah, moi aussi, oui.
Oui, oui, ben, c'était l'époque où il y avait des slows, on en a parlé il y a 2-3 semaines avec Ben Sissi, à I'm Not In Love.
Ouais.
Ben, c'était l'époque où il y avait des slows, voilà. Bon, ben, je ne sais pas comment font aujourd'hui les jeunes dans les boîtes de nuit, mais bon, c'est comme ça. Allez, Les Magnétiques, eh bien c'est dans Les Magnétiques qu'on entend justement cette chanson Le Premier Pas. Les Magnétiques, c'est un film, c'est un premier film de Vincent Maël Cardona. Vincent Maël Cardona, c'est donc un jeune réalisateur français.
Breton.
Oui, breton, absolument. Il avait auparavant réalisé des courts-métrages. Il est acteur dans le film, il a un petit rôle, et puis réalisateur et scénariste. Le film est proposé par les cinéastes. C'est un des coups de cœur de du programmateur Malo. Et donc, Les Magnétiques a droit à 2 séances par jour. Les Magnétiques, donc, duraient 1h38. Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans l'ombre de son frère Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du père et la menace du service militaire, les deux frères ignorent qu'ils vivent là les derniers feux d'un monde sur le point de disparaître. Gilles Kerdo dans Ouest France parle d'un coup de maître à propos de ce film. Caroline Vier, 20 minutes, ce premier film révèle deux artistes prometteurs, le réalisateur Vincent Maël Cardona et le comédien Timothée Robard. Sophie Benhamon, L'Humanité, souvent filmée en plan rapproché, les visages des acteurs traduisent les frustrations, les colères et des espoirs d'une jeunesse qui tente de se frayer un chemin dans un monde qui brûle. Baptiste Thion, Le Journal du Dimanche, entre récits d'apprentissage, romances contrariées et portraits d'une génération aux espoirs défaits, le mix que le film compose a des airs de tube parfait. Nicolas Scherer dans L'Obs, Les Magnétiques, à la grâce des joies éphémères et la mélancolie des lendemains qui déchantent. La revue positive, Dominique Martinez, malgré l'hommage appuyé, voire fantasmé aux années 80 et aux appareils de l'époque, platine cassette, Walkman, une énergie toute contemporaine se dégage de ces séquences qui sonnent justes. L'allure tranquille, le jeu retenu, la voix mal assurée de Timothée Robard renforcent la dimension intemporelle de ce récit d'initiation. Corinne Renaud-Nativelle dans La Croix, avec ses acteurs débutants, Timothée Robard, Marie Collomb, Joseph Oliven, ce récit initiatique porte en lui un double mouvement paradoxal, la mélancolie de la sortie de l'enfance avec ses premiers renoncements et l'énergie rock de la jeunesse qui porte en elle toutes les espérances. Muriel Joudet dans Le Monde, si dans sa première partie le film contourne les écueils de la reconstitution historique, il finit par se faire happer par l'académisme du scénario. Ludovic Béot, Les Inrecuptibles, malgré toutes ses bonnes intentions, le film souffre de personnages à la caractérisation trop unidimensionnelle pour vraiment émouvoir. De même, son script linéaire manque d'aspérité et laisse l'impression tenace de ne pas parvenir à s'émanciper d'un cadre et d'intentions trop appuyées. et on fait un Sandra Onanda dans Libération, la playlist en impose, mais rien ne dépote vraiment dans cette reconstitution minutieuse, débordant de zèle et de rétrophilie. Donc, ça s'appelle Les Magnétiques, c'est proposé par les cinéastes avec deux séances par jour. Donc, on est dans le contexte du début des années 80, de l'élection de François Mitterrand, le début des radios pirates qui deviendront ensuite libres. C'est l'histoire de Philippe. C'est un jeune Breton qui travaille comme mécanicien dans le garage de son père avec son frère aîné admiré, qui s'appelle Jérôme. Alors, autant Jérôme est extraverti, grand de gueule, beau mec, séducteur, mais avec une part sombre, autant Philippe, lui, il est timide, effacé, dans l'ombre de son frère. Les relations avec le père chez qui tous deux habitent, les relations sont tendues, difficiles, mais il y a les potes et les copines, et notamment Marianne, et puis une passion commune pour les radios naissantes. Ils en animent d'ailleurs une dans un grenier, comme c'était souvent le cas à l'époque. Hélas, pour Philippe, vient aussi le temps du service militaire auquel il ne réussira pas à échapper. Donc c'est le récit d'une émancipation, d'une histoire d'amour esquissée. Le film est la chronique d'une époque, tout autant que le portrait d'une certaine jeunesse, justement de cette époque. Moi, je l'ai trouvé réussi dans sa première partie, et puis je trouvais qu'ensuite le film s'enlisait peu à peu, avant de retrouver un certain élan sur la fin. Donc l'atmosphère de l'époque, de cette France rurale, où la jeunesse aspire à quelque chose d'autre que l'ennui environnant, et l'autre ici, ce sont les premières radios pirates, où chacun peut s'exprimer librement, et bien cette atmosphère, moi je la trouve bien rendue, c'est pour moi le meilleur du film. L'histoire d'amour, elle a cela d'original qu'elle ne fonctionne pas, comme on en a l'habitude au cinéma, puisqu'elle est finalement inaboutie. Et puis il y a plein de choses à retenir dans ce film qu'on voit rarement dans les premiers films, comme par exemple cette évocation du service militaire. Ça ne dira rien au jeune public, le service militaire, mais c'était encore une réalité à cette époque-là. Voilà, donc c'est un film qui est un récit d'apprentissage. Ça m'a partiellement convaincu, sans que je sache vraiment pourquoi, juste partiellement. Sans doute à cause d'une sorte de trou dans le récit à mi-parcours. C'est à retenir toutefois pour l'acteur principal, Timothée Robard, dont on devrait quand même reparler. Un petit peu comme Vincent Lacoste qu'on avait découvert dans Les Beaux Gosses, par exemple. Bon, alors Pierre, tu l'as vu, Les Magnétiques?
Ouais, je suis un peu comme toi, moi je suis un peu mitigé. Hein. Mm-hmm. Alors, on l'a dit, beaucoup de musique dans ce film, même le slow de Claude Michel Schoenberg, le premier pas, qu'on vous a offert tout à l'heure,
et oui.
Sur fond de Radio Pirate, juste avant la libération des ondes, une histoire d'amour que j'ai trouvée en trilogie. L'amour entre deux frères, et l'amour des deux frères aussi pour la même personne, mais c'est aussi surtout l'amour du plus jeune pour une jeune femme interprétée par la jolie Marie Collomb. Alors ne vous attendez pas à un film sur les radios locales.
Non.
Je sais que c'est l'avant-première, il y avait beaucoup d'animateurs de Radio Alpa, puisque c'était organisé par les cinéastes, mais aussi par Radio Alpa. Et là, il y a pas mal d'animateurs qui ont été déçus, qui croyaient voir un film sur les radios. On les voit, vous l'avez dit, tu l'as dit, en début de film, mais après, non. Mais c'était une histoire prenante, d'amour, tout simplement. Ce premier film de Vincent Cardona, vu en avant-première, donc, et qui est sorti mercredi, est très prometteur pour la suite, je pense, quand même. Ce film a été présenté à Cannes et a obtenu quand même le prix de la quinzaine des réalisateurs. Il a aussi obtenu un prix à Deauville pour les films américains, mais pour les premiers films français.
Mmh. Donc ça s'appelle Les Magnétiques. C'est proposé par les cinéastes avec deux séances par jour. On est fait pour s'entendre. Cette fois-ci, on a un film qui est proposé au Méga CGR et au Pathé Quinconce. C'est un film de Pascal Elbé. Pascal Elbé, il est acteur. On l'a vu dans Brillantissime, dans Just Gigolo, Rendez-vous chez les Malawas, qui est passé il y a quelques temps à la télé, dans Knock. Et puis, il est aussi réalisateur et scénariste. En 2010, il avait réalisé Tête de Turc avec Roche Dizem et lui-même. 2015, Je compte sur vous avec Vincent Elbaz, Julie Gaillet et Zaboul Breitman. Le film dure 1h33. C'est l'histoire d'Antoine. Antoine semble n'écouter rien ni personne. Ses élèves qui lui réclament plus d'attention, ses collègues qui n'aiment pas son manque de concentration, ses amours qui lui reprochent son manque d'empathie. Et pour cause, Antoine est encore jeune, mais a perdu beaucoup d'auditions. Sa nouvelle voisine, Claire, venue s'installer temporairement chez sa sœur avec sa fille, après la perte de son mari, rêve de calme et de tranquillité. Pas d'un voisin aussi bruyant qu'Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s'entendre. La revue de presse, Catherine Ball dans Le Parisien, parle d'une comédie romantique tendre, originale et hilarante. Hilarante, faut peut-être pas non plus aller jusque-là. Isabelle Magnier, Télé 7 jours, une comédie romantique très drôle, toujours juste, empreinte de tendresse. Stéphane Joby, Le Journal du Dimanche, une comédie romantique sans surprise, mais efficace. Xavier Harper dans L'Obs, les problèmes sont trop vite réglés, les quiproquos expédiés et l'humour cocasse s'effrite face à la vague déferlante de bons sentiments qui emporte tout sur son passage. Dommage. Rose Baldousse dans Les Inoccupables. Seule la présence de Sandrine Kiberlain, décidément toujours aussi naturelle dans sa manière d'exister à l'écran, parvient à éclairer quelque peu cette comédie romantique bien fade qui se réserve sûrement de plus beaux jours à la télévision. Oui, donc, le film est proposé au Oméga CGR, il est proposé au Pathé Quinconce. Donc, afin d'évoquer les problèmes vécus au quotidien par les malentendants dont il fait partie, hein, et ça je ne savais pas, mais donc Pascal Elbé est malentendant, eh bien Pascal Elbé a choisi le vecteur de la comédie romantique. Ça donne un film agréable à suivre, mais pas non plus mémorable, donc c'est l'histoire d'Antoine. C'est un prof de lycée qui ne semble écouter ou entendre personne, ni ses élèves, ni ses collègues, ni son entourage, ni ses amours, et qui se rend compte finalement qu'il a des problèmes d'audition, ce qu'il ignorait. Bien qu'il ne soit pas bien vieux, hein, il doit avoir une cinquantaine d'années à peu près. Ce constat, il le fait à cause de sa voisine, Claire. C'est une récente veuve qui vit temporairement chez sa sœur avec sa petite fille mutique, Violette, et qui en a plus que marre d'être réveillée de bonne heure par le réveil matin mis à fond par Antoine et par le niveau sonore auquel il écoute sa musique. Et oui, les sourds écoutent la musique très fort, enfin ceux qui sont malentendant, parce que ils écoutent rien, voilà, bien entendu. Donc, les débuts en cela sont compliqués, mais grâce à la petite fille, à Violette, eh bien, ils vont finir par se rapprocher, et plus, car affinité. Donc, des situations drôles basées sur des quiproquos et des malentendus, hein, c'est le cas de le dire. De bons acteurs, y compris les seconds rôles, par exemple, il y a François Berléand, dans les seconds rôles, Emmanuel DeVos, pour parler des difficultés dans la vie quotidienne, professionnelle, sentimentale, que peuvent connaître les gens atteints de déficience auditive, y compris une fois appareillés, parce qu'à ce moment-là, eh bien, ils retrouvent une acuité, mais une acuité qui les agresse, le moindre bruit devenant pour eux douloureux. Le film, donc, s'efforce de montrer ce que l'on ressent en ayant cette forme de handicap, et il le fait avec habileté grâce au travail du film sur les sons perçus par Antoine, selon les moments ou selon qu'il a sa prothèse auditive ou qu'il ne l'a pas. Donc, il y a des différences d'intensité sonore dans le film, des différences de clarté sonore. Ça, c'est bien fait. D'où un film digne d'intérêt qui prend la forme d'une comédie romantique, on va dire familiale. Ça se laisse voir, mais bon, là aussi, c'est pas non plus un film dont je vais vous dire qu'il faut aller le voir, séance tenante. Voilà, ça s'appelle On est fait pour s'entendre. C'est présenté par le Méga CGR et par le Pathé Quinconce. Et puis c'est pas très long, ça fait 1h33. Orange Sanguine. Orange Sanguine, cette fois-ci, on repart au cinéaste, mais avec simplement une seule séance par jour. Pour ce film de Jean-Christophe Meurice. Jean-Christophe Meurice est un réalisateur, scénariste et acteur. Il avait réalisé en 2016 un film qui s'appelait Apnée, et puis là, Orange Sanguine, ça dure 1h42 et c'est interdit aux moins de 12 ans, et quand on va voir le film, on comprend pourquoi c'est interdit aux moins de 12 ans, alors que c'est présenté au départ comme une comédie.
Y a-t-il une relation avec Paul Meurice ?
Je n'en sais rien, je ne sais pas, je ne crois pas. Au même moment en France, un couple de retraités surendettés tente de remporter un concours de rock. Un ministre est soupçonné de fraude fiscale. Une jeune adolescente rencontre un détraqué sexuel. Une longue nuit va commencer. Les chiens sont lâchés. Alors, Emilio Mélé dans L'Humanité. Dans Orange Sanguine, le metteur en scène met directement le doigt et le bras avec dans les plaies d'une société malade. En résulte l'une des meilleures comédies françaises de ces dernières années. Caroline Vier dans 20 minutes. Quel drôle de film culotté qui mêle des personnages aussi divers comme politiciens, danseurs de rock et une jeune fille innocente. À la fois comédie potache et sociale, film d'horreur, tragédie romantique et thriller politique, Orange Sanguine malmène joyeusement le public. Stéphanie Belpech, le journal du dimanche, une comédie sociale trash qui dégomme tout sur son passage, délicieusement irrévérencieuse et impitoyable pour régler ses comptes avec une époque qui broie les plus faibles. François Forestier dans L'Obs, c'est grinçant, râpeux, réjouissant et ça ne ressemble à rien ni à personne. Thierry Chasse dans West France parle d'un film punk, un vrai. Renan Crowe dans Cinématiseur, Jean-Christophe Meurice lâche les chiens avec une satire acide sur l'époque qui vire au film d'horreur tétanisant. Attention, ça secoue. La rédaction du Parisien, Orange Sanguine, déroute, dérange. Parfois drôle et toujours bien écrit, il nous fait rire avant de se teinter d'un goût particulièrement acide. François Léger dans Première. Le risque, c'est évidemment de noyer le spectateur sous un déluge de malaise et de chaos, ce que Meurice n'évite pas tout à fait. Le miroir déformant flirtant parfois dangereusement avec le grotesque, mais une fois toutes ces grenades soigneusement dégoupillées, il émeut quand on s'y attend le moins avec un plan final qui semblerait presque sorti d'un autre film. Fabrice Leclerc Paris Match, entre scènes prodigieuses, les délibérations d'un jury rock, et provoque fastoche, Blanche Gardin en énième caricature de son personnage, le film se perd parfois dans son propre postulat transgressif, les limites d'un cinéma punk pourtant salvateur. Voilà, donc le film proposé aux cinéastes, une seule séance par jour. C'est un film quand même très très spécial, comme on en voit rarement, à cause de sa rupture de ton radicale à mi-parcours. Ça commence en fait comme une comédie satirique, grinçante, où on suit trois histoires, celle d'un couple de retraités surendettés qui compte sur les gains à un concours de rock pour s'en sortir, celle d'une ado en visite chez sa gynéco pour être rassurée avant d'avoir son premier rapport sexuel, et enfin celle d'un ministre qui, craignant de voir éclater une affaire de fraude fiscale le concernant, s'enquiert des conseils d'un avocat pour allumer des contre-feux. Et ces trois histoires sont reliées par un personnage qui est un avocat. Voilà. Alors certes, c'est filmé très très plan-plan, hein, sur le plan formel, il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est vraiment drôle, d'un cynisme de bon aloi, avec des dialogues jubilatoires, souvent hilarants, fustigeant le politiquement correct. Et puis, soudain, à mi-parcours, intervient un personnage de psychopathe, et le film bascule dans l'horreur, avec scène de torture. Oui, donc ça, c'est une vraie rupture. Pas sûr que ce changement de ton serve le film, mais bon, c'est assumé, c'est clair. Alors, ce n'est que vers la fin qu'on retrouve le ton humoristique, mais un humour très noir. Alors moi, je suis assez partagé sur ce film. Je vois bien la volonté de l'auteur de dénoncer les travers de la société à travers ces situations évoquées, en prenant le ton de la férocité, de l'humour agressif. Mais le mélange des genres est-il si efficace pour le faire? J'ai un petit doute. Voilà, donc c'est un film qui est difficile de recommander. En tous les cas, il est interdit moins de 12 ans, et là, c'est parfaitement justifié. Voilà. Eh bien, petite pause musicale dans le film On est fait pour s'entendre. On entend une reprise d'un titre, là aussi, qui doit dater des années 70. C'était un groupe qui s'appelait Wallace Collection.
Oh, c'est 70 à
oui,
peu près.
Oui, Daydream. Claude François avait repris ça. Et là, c'est Daydream in Blue. Et c'est le groupe High Monster qu'on entend sur Radio Alpa.
Et à l'origine, c'était Wallace Collection.
Exactement, voilà. C'était un groupe belge, je crois.
Oui.
Et ça commence.
Asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day.
Monster, un titre que l'on entend dans le film On est fait pour s'entendre. Olga, c'est un film qui est proposé par les cinéastes avec une ou deux séances par jour. C'est un film de Eli Grape, je ne sais pas comment on dit, réalisateur et scénariste.
C'est un français. Hein.
C'est un français, donc
Grape,
certainement. C'est son premier long métrage et la durée est d'1h27. 2013, une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la Suisse, où elle s'entraîne pour le championnat européen en vue des JO, et l'Ukraine, où sa mère, journaliste, couvre les événements d'Euromaïdan. Stéphanie Belpech, le journal du dimanche. Ellie Grappe, signe un premier film impressionnant par sa maîtrise et sa puissance narrative. Renaud Baronian, le Parisien, ce portrait d'une ado partagée en 2013 entre deux pays, entre sa passion pour son sport et la révolution qui couvre place Maïdan en Ukraine, s'avère remarquablement maîtrisé. Thierry Chaise, dans Ouest France, parle d'un remarquable récit d'apprentissage. Fabrice Leclerc, dans Paris Match, un brillant mélange de fiction et d'ultra-réalisme pour ce premier long-métrage du français Ellie Grappe. Véritable leçon de cinéma à la force glaçante. La rédaction de Télérama autour de ce personnage à la fois dur et fragile, interprété par une authentique gymnaste, le film réussit à parler de tout ce qui dessine le chemin vers la maturité. Maroussia Dubreuil, Le Monde. Si le film peine à sortir de l'exercice de style, il y a une intelligence et une virtuosité formelle à l'œuvre qu'on retrouve toute lumière éteinte dans le visage constellé de craie de son héroïne. Thierry Chaise dans Première, film de peu de mots, Olga tient en haleine de bout en bout en s'appuyant sur une connaissance très documentée du sujet et la capacité à y injecter de la fiction sans jamais dénaturer cette réalité qui constitue son socle. Et enfin, Xavier Le Harper Lopes, un premier film au scénario un peu lesté, mais porté par une mise en scène inspirée. À toi Pierre.
Écoutez, je vais vous faire un aveu, j'ai adoré et je l'ai même vu deux fois.
Ah, ben.
C'est à ce point-là, oui. Alors, un avertissement quand même, si vous n'aimez pas le sport et plus particulièrement la gymnastique féminine, n'allez pas voir ce film qui nous montre une jeune gymnaste de haut niveau à l'entraînement, en compétition, tout au long du film. Par contre, si comme Ellie Grappe, vous aimez l'esthétique au féminin, n'a-t-il pas réalisé auparavant des courts-métrages sur une danseuse classique ? Puis sur une jeune violoniste ukrainienne, ah oui, déjà l'Ukraine, avant de s'attaquer donc à l'écriture de Olga. Alors là, vous aimerez ce film. Anastasia, c'est son vrai nom d'actrice et de gymnaste, et ses beaux yeux bleus vous séduira. Vous apprécierez aussi la trame politique qui se dessine tout au long du film, sur fond de dictature en Ukraine et la révolte du peuple ukrainien. Il faut dire que c'est pratiquement un documentaire de ce côté-là, parce que ce sont des vrais événements filmés par des portables. Moi, j'ai adoré Olga, je le dis encore, ou Anastasia, comme vous voulez. Ce film a obtenu le prix SACD, ça veut dire Société des auteurs et compositeurs dramatiques, au dernier festival de Cannes.
Bon, eh bien, on ira voir
je vous le conseille.
Olga. Faudra faire attention, parce qu'il n'y a vraiment qu'une seule séance par jour au cinéaste pour ce film. Affamé, c'est au Méga CGR et c'est au Pâté Quinconce. C'est un film d'une durée d'1h39, interdit moins de 12 ans avec avertissement. C'est un film de Scott Cooper, acteur, réalisateur, scénariste américain. Il a réalisé des films intéressants auparavant. En 2009, Crazy Heart avec Jeff Bridges, Colin Farrell. 2013, Les Brasiers de la colère avec Christian Bale, Woody Harrelson. 2015, Strictly Criminal avec Johnny Depp, Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch, et en 2018, un très bon western hostile avec Christian Bale et Rosamund Pike. Affamé, 1h39, dans une petite ville minière de l'Oregon, une institutrice et son frère policier enquêtent sur un jeune écolier. Les secrets de ce dernier vont entraîner d'effrayantes conséquences. Michel Valentin dans Le Parisien, une atmosphère grise qui sied à merveille à ce film d'horreur sociale qui prend à mi-parcours un virage nettement fantastique, convoquant quelques légendes amérindiennes bien gratinées qui justifieront plus tard des scènes gore et violentes à souhait. Stéphanie Belpech, le journal du dimanche, atmosphère particulièrement malsaine et oppressante et mise en scène élégante et audacieuse pour un conte macabre singulier produit par Guillermo del Toro. La rédaction d'Écran Large, Scott Cooper se réapproprie les codes du film de monstre sans pour autant les chambouler. Mathieu Macheret, Le Monde, l'atmosphère post-industrielle et son désarroi sont bien dépeints, mais le film est miné par une pesanteur psychologique. Camille Nevers, Libération, mélangeant folklore amérindien et enfant possédé, la tambouille d'horreur arty de Scott Cooper n'a aucun intérêt. Sylvestre Picard en Première, franchement, on aimerait beaucoup adorer ça inconditionnellement, mais à l'exception de quelques visions gore bien troussées, Affamé se révèle bien trop fade pour nous satisfaire. Le film proposé, je le répète, au Méga CGR et au Pâté Quinconce, je ne sais pas s'il y a de la VF, et s'il y a de la VO, pardon, au Pâté Quinconce, j'en suis pas sûr. C'est un film d'horreur, voilà, un film d'horreur sur fond de légende indienne, la légende du Wendigo. Le Wendigo, c'est une sorte de monstre animal, genre cerf géant, effrayant, maléfique et cannibale. On a déjà quand même beaucoup vu de films d'horreur avec des histoires de légendes indiennes. Ça a été un des fonds de commerce de Stephen King, notamment. Et ça donne un film qui n'est ni mieux ni pire que la moyenne habituelle du genre, c'est-à-dire le film d'horreur. Une enseignante d'une petite ville de l'Oregon constate que l'un de ses élèves a des comportements qui posent question. Celui-ci est très renfermé, dessine des choses horribles dans ses cahiers. Alors, soupçonnant une quelconque maltraitance, elle est en effet très sensible à la question parce que cette institutrice, elle a été victime elle-même ainsi que son frère, le shérif du coin. Donc, elle décide d'en savoir plus et bien mal va lui en prendre parce que les secrets cachés par l'enfant pour protéger sa famille sont effrayants. Alors, si le réalisateur, comme souvent, réussit parfaitement à créer une atmosphère particulièrement inquiétante, eh bien, pour le reste, on est dans l'habituel de la grammaire du film d'horreur. Alors, on marche ou pas, moi, c'est pas, parce que j'ai l'impression d'avoir vu ce genre de film des centaines de fois, avec même, évidemment, une fin qui laisse la possibilité d'une suite, si le film marche, bien sûr. Alors, si on veut chercher du positif, on notera la bonne utilisation du décor et la création de cette atmosphère de petite ville de l'Oregon, baignée en permanence dans une atmosphère automnale, humide. Les effets spéciaux sont vraiment minimalistes, plutôt fauchés même. Quant à la signification du film, on serait bien en peine de la donner si on n'avait pas lu les cartons du début du film, qui parlent un petit peu d'écologie et de bousculade de la nature. Voilà. Bon, c'est vraiment uniquement pour les amateurs de films d'horreur, et encore, risque d'être bien déçus.
Bah, pas moi. Hein.
Alors, Haut et Fort, c'est le dernier film de la semaine dont on va parler. C'est un film qui est proposé par les cinéastes, réalisé par Nabil Ayouch, réalisateur, scénariste, producteur franco-marocain, en 69. Il a réalisé des films comme en 97, Mektoub, 2000, Alizawa, Presse de la rue, 2003, Une minute de soleil en moins, 2007, Whatever Lola Wants, ça, je l'ai vu, avec Laura Ramsey, ça parlait de la danse du ventre en Égypte, c'était très intéressant d'ailleurs. 2011, My Land, un documentaire, 2012, Les Chevaux de Dieu, 2015, Much Loved, et 2017, Razzia. Haut et Fort, 1h42, eh bien, Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d'un quartier populaire de Casablanca. Encouragés par le nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur passion et s'exprimer à travers la culture hip-hop. Le Parisien, décoiffant, émouvant, dansant, le film interprété par ce professeur comme élève qui y joue leur propre rôle, épate tant par sa fibre sociale que par cet hommage que le cinéaste rend au bouillonnement de la jeunesse et à ses centres culturels qui leur permettent de franchir toutes les barrières. Caroline Vier, dans 20 minutes, Nabil Ayouch signe une comédie musicale enthousiasmante avec de jeunes Marocains qui apprennent le rap dans un centre culturel de Casablanca. Alexis Campion, le journal du dimanche, sous le regard impénétrable d'un prof exigeant, une dizaine de jeunes affûtent leurs rimes, dépassent les clichés importés, expriment les mots de leur quotidien. Un combat pas gagné, mais porté ici par une jeunesse pleine d'élan et d'éclat. Étienne Sorin, Le Figaro, malgré quelques belles séquences où la parole se libère en musique, Nabil Ayouch peine à donner un mouvement d'ensemble à des revendications légitimes mais éparses. Clarisse Fabre, Le Monde, un long métrage mêlant fiction et documentaire qui pose des questions a priori passionnantes sur le langage et l'émancipation politique, insuffisamment creusées. Thomas Borès en première, la matière documentaire du film déborde largement du cadre pour devenir la raison d'être d'un film qui s'obstine pourtant à déguiser ça en fiction, avec l'étrange sentiment que les outils du cinéma, scénario, montage, retiennent l'énergie créatrice que le cinéaste avait sous ses yeux. Alors, Pierre ?
C'était sous mes yeux, oui, effectivement. Alors, je vais encore faire un petit avertissement. Si vous n'aimez pas le rap, je vous conseille quand même pas trop ce film. Il y a beaucoup de rap. Moi, je ne suis pas fan, mais j'ai aimé quand même ce film parce qu'il y a un message à travers le rap de la nouvelle génération, ce sont des ados, hein. Et puis il y a la danse hip-hop aussi qui est intéressante, et puis surtout le message des jeunes qui veulent clamer leur révolution, entre guillemets, c'est un bien grand mot, mais conflit des générations, on voit à un moment les parents qui ne veulent pas que leurs enfants entrent faire le spectacle de rap, et donc, bah voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis un peu mitigé, mais je l'ai aimé quand même, ce film. Alors, petite chose encore, on ne s'est pas précipité pour ce film, hein, puisque je suis allé à la première séance, j'étais tout seul.
Ah, bon, non, c'est pas très
séance bien, privée.
Oui. Bon, ben, Haut et Fort, au cinéaste, durée 1h42, une ou deux séances par jour. Toujours au cinéaste, donc pour mémoire, simplement, des films pour les enfants, vraiment pour les petits-enfants, c'est deux programmes de court-métrage qui font 40 minutes à peu près. Il y a le Noël du Petit Lièvre Brun, là ça correspond à 4 courts-métrages, et puis le Quatuor à Cornes là-haut sur la montagne, et là c'est 3 courts-métrages d'animation dans les deux cas. Attention, pour les séances, il n'y en a que le samedi et le dimanche, et il n'y en a qu'une. Bon, peut-être que les films... Bon, je ne suis pas sûr qu'ils resteront jusqu'à Noël, on est quand même un petit peu loin. Donc, il y a des séances le dimanche à 11h, et le samedi, c'est l'après-midi, 16h ou 17h. Voilà. Bien, alors, on a juste un petit peu le temps de vous passer juste un petit peu d'un titre que l'on entend dans le film Magnétique, c'est... Caméra Silence pour la gloire sur Radio Alpa, mais on le passe pas en entier, juste le temps de caler mes avant-premières et finir à l'affiche la semaine prochaine. Ça s'appelle Pour la gloire, si vous l'avez compris. Caméra Silence, un titre que l'on entend dans Les Magnétiques. Ça donne un petit peu une idée de l'atmosphère musicale du film, un peu punk. Voilà. Alors, on y va, les avant-premières. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous écoutez en direct dès ce soir au Pâté Quinconce à 20h, Resident Evil, Welcome to Raccoon City. C'est le 6e épisode de la saga Resident Evil. Bon, c'est film d'horreur, quoi. Hein, spectaculaire. Dimanche, alors dimanche, vous avez l'embarras du choix. 13h45, Omega CGR, SOS Phantom. Alors, je ne sais plus le titre exact, c'est SOS Phantom, quelque chose, Renaissance, je ne sais pas trop quoi, je ne me rappelle plus, mais enfin bon, peu importe. 13h45, donc, au Pâté. Non, Omega CGR, 13h45, Omega CGR. Le Pâté Quinconce, 14h, Mystère. Et suivi à 16h de Tous en scène 2, le dessin animé Tous en scène 2, qui est la suite donc de Tous en scène 1. Les cinéastes proposent en avant-première L'Événement. L'Événement, c'est un film de Audrey Diwan. Oui, donc 16h, cinéaste. Lundi, on revient au Pâté à 19h30 pour le documentaire Animal. Mardi, c'est le Pâté Quinconce à nouveau pour L'Événement. Donc eux, ils font l'avant-première le mardi à 20h. Et sinon, eh bien, il y a les avant-premières du film Suprême qui sortira le mercredi suivant. Suprême, c'est l'histoire de la naissance de NTM, de Joestar et de Cool Chain. Moi, je l'ai vu le film. Moi, je suis pas du tout fan de rap et de NTM, mais je dois reconnaître que les deux acteurs sont formidables et qu'il y a une vraie énergie dans ce film. Alors, donc, si vous voulez le voir, c'est 19h45 au Méga CGR, 19h55 au Pâté. Restons dans les avant-premières. Jeudi 25, le Pâté, lui, c'est SOS Phantom, mais en VO, et ça sera à 19h45. Et puis, si vous nous écoutez, ben, on en reparlera la semaine prochaine, mais peut-être qu'il faut retenir ses places. Il y a Franck Dubos qui vient proposer son film Rumba. Rumba ne sortira qu'en février, mais il vient proposer le film vendredi soir. Il est prudent de réserver sa place, soit au Pâté, soit au Méga CGR. C'est le soir vers 20h45-21h. Pour les films la semaine prochaine à l'affiche, eh bien, il y a Resident Evil, Welcome to Raccoon City, donc on en parlait il y a un instant. Suprême, on en parlait il y a un instant. L'Événement, on en parlait il y a un instant, puisque tous ces films-là ont droit à des avant-premières. Il y aura également De son vivant d'Emmanuel Berco avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel. House of Gucci de Ridley Scott. C'est sur la maison Gucci, la maison de mode Gucci. Le Disney des vacances qui sort déjà. Encanto, la fantastique famille Madrigal. Et puis, il y aura également un documentaire Frida, sur Frida Kahlo. Frida, viva la vida. Ça sera ça au cinéaste. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, mais non sans vous avoir recommandé...
Je voudrais juste dire que dimanche au pâté, c'est une spéciale enfant, la journée.
Spéciale enfant,
oui,
absolument.
Oui, absolument. Oui. Alors sinon, Olga, sans problème.
Olga, sans problème, oui. Donc voilà. Et moi, je dirais, amant, ça se laisse voir. Oui, alors, toujours pareil, au cinéaste, il y a aussi des films qui sont des séances spéciales. Hein, donc, par exemple, dans les séances spéciales, en dehors des avant-premières, il y a par exemple, dimanche à 20h, Laurent Garnier, Off the Record, un documentaire sur le DJ de Laurent Garnier. Sinon, il y a J'irai mourir dans les Carpates. C'était assez sympa comme film.
Ah, je l'avais vu avant le confinement.
Oui, moi aussi, oui. Lundi 22 à 20h. Voilà. Et puis, Une fois que tu sais, Ciné-Débat en partenariat avec Greenpeace, mardi soir à 20h. Voilà. Donc, ça, c'est des différentes séances spéciales.
Il y a toujours le cycle Kelly Reichardt.
Oui, et je vous invite donc pour les séances spéciales à vous informer sur le site des cinéastes. Vous avez toutes ces informations-là. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une excellente semaine cinématographique et nous, on se retrouve bien entendu la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Au revoir.